Alors j'espère que vous avez apprécié ce film, porté à la base par l'acteur Matt Damon, qui est le scénariste, avec John Krasinski, qui joue le rôle de Dustin. Et Matt Damon devait même réaliser le film, mais a renoncé à quelques semaines du tournage pour laisser la main à Gus Van Sant, avec qui il avait déjà travaillé deux fois auparavant. Jerry, un film beaucoup plus indépendant et artistique, mais aussi Will Hunting en 1998, un scénario déjà de Matt Damon avec Ben Affleck à l'époque, pour lequel ils avaient obtenu l'Oscar du meilleur scénario. On pourra revenir sur ce film avec vous par la suite, mais je vais tout de suite laisser la parole à mes collègues s'ils veulent évoquer ce qu'on vient de voir et les questions qui peuvent être soulevées avant de vous laisser la parole.
Merci beaucoup. Alors je crois qu'on pourrait commencer par une citation du film. Beaucoup d'argent conduit à de mauvaises décisions. On voit que c'est souvent le cas face à des multinationales, en tout cas alors, pour ce que je connais. Effectivement, donc, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, que le film date de 2012, mais qu'on pourrait véritablement... est tout à fait actuel à l'heure actuelle avec les multinationales, en tout cas dans les... dans les domaines du pétrole, dans le domaine du gaz, et ces problématiques, elles s'appliquent encore sur le déséquilibre qu'on a entre les populations et les investissements des multinationales qui, en faveur des populations, des infrastructures, font croire que effectivement l'argent du pétrole ou l'argent du gaz peut sauver les populations, mais qu'en réalité... Ça cause des dommages irréversibles sur l'environnement. Et donc, déjà en 2012, on avait cette problématique qu'on a encore aujourd'hui et qu'on n'est pas prêt de résoudre, tant les problématiques énergétiques sont actuelles en ce moment.
Oui, juste, c'est un peu un double cynisme, en fait, ce qu'on a pu voir ce soir, puisque, en fait, à la fois, ce sont des multinationales, mais ça pourrait être dans un autre domaine que les énergies fossiles. Donc, c'est déjà, on voit que leurs actions, en fait, sont centrées sur l'argent et qu'effectivement, ça conduit à de mauvaises décisions. Mais en plus, ces multinationales viennent vendre des énergies fossiles qui, en plus, ont des conséquences, on l'a dit tout à l'heure, dramatiques pour notre environnement. Donc c'est vraiment un double cinéma. On voit tous les clichés qu'on a dans des multinationales américaines, mais aussi françaises, que je ne citerai pas ici parce que je ne tiens pas à me retrouver trop au tribunal. Donc en tout cas, c'est, c'est à peu près les mêmes schémas. Donc où on essaye d'acheter les bonnes consciences. On sponsorise ici, on a vu, on sponsorise des matchs de baseball. En France, on va sponsoriser des matchs de rugby, des matchs de foot. Enfin, voilà, c'est pour se faire acheter un peu une conscience. Donc, c'est les mêmes clichés qu'on retrouve un peu partout.
Oui. Pas d'attente pour la première question, c'est parfait.
Ce film, donc, est sur le... Bonsoir, Michel. Ce film, c'est sur les gaz de schiste. Alors, ça fait plus de 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans maintenant que les États-Unis, c'est eux qui ont lancé ça, le gaz de schiste, puisque... Et donc, ça, au point de vue du bilan énergétique des États-Unis, ça, c'est très positif. Est-ce qu'on a un bilan de ce qui est négatif du gaz de schiste par le système de fracturation des roches, etc. Est-ce qu'il y a des paysages complètement tourmentés, enfin, par rapport à ce qu'a été le pétrole aussi aux États-Unis, qui a commencé aux États-Unis il y a plus de 100 ans, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment de... Est-ce que ce gaz de schiste, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Est-ce que tout est négatif et tout est à rejeter? Voilà la question que je me pose, puisque en Europe, justement, on n'a pas voulu aller vers le gaz de schiste, en tout cas dans l'immédiat.
Donc, il n'y a pas que des points positifs dans le... Alors, je ne suis pas spécialiste du gaz de schiste, mais enfin, pour m'y être intéressé, évidemment, un petit peu, il n'y a pas que des désavantages. Puisqu'à un moment, même dans le film, on l'entend, on dit, voilà, si vous êtes contre le gaz de schiste, vous êtes pour le pétrole et le charbon, sous-entendu, c'est une mauvaise décision. Donc il y a effectivement des... ça serait un petit peu abusif de dire que le gaz de schiste est plus écologique, comme il est dit ici, que le charbon, le pétrole et le gaz conventionnel. Mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est tous les déboires que causent les forages au gaz de schiste. On le voit d'ailleurs quand on a une carte ici dans le film. On voit qu'ils ont besoin, en fait, d'avoir plusieurs implantations. C'est un vrai problème dans l'exploitation du gaz de schiste comparativement au gaz conventionnel. C'est qu'il faut beaucoup, beaucoup de forages. faire beaucoup de forages multiples à différents endroits. Donc ça veut dire beaucoup d'énergie. Il faut savoir que quand on... le principe du gaz de schiste, d'ailleurs on dit gaz de schiste, mais c'est une mauvaise traduction de l'anglais que je laisserai à Yvelin, qui est angliciste, le soin de traduire. Mais parce qu'ici on est un pays de schiste, on le sait, mais ce n'est pas du tout le même type de roche que celle qu'on trouve chez nous. C'est des roches sédimentaires, le gaz de schiste, mais qui contiennent du gaz, mais qu'on a besoin de fracturer, ils l'ont dit d'ailleurs dans le film. Hein, c'est-à-dire qu'on fait des forages profonds. Et pour fracturer cette roche, on injecte de l'eau à très très haute pression. En général, c'est autour, aux alentours de 2000 ou 3000 bars. Alors, pour, si vous n'avez pas d'ordre de grandeur, quand vous ouvrez votre robinet à fond chez vous, c'est à peu près 2 bars. Donc là, vous voyez, il y a un facteur 2000, quasiment, enfin 1000, pardon, entre. Donc c'est une eau qui est à très très forte pression. Donc ça demande énormément d'énergie pour injecter cette eau, pour aller fracturer la roche à des centaines de mètres sous le sol. Ça, c'est la première chose. Beaucoup d'eau. Il faut savoir qu'un seul forage, et là on a vu plein, hein, un seul forage, c'est à peu près, dans mon souvenir, c'est 300 000 mètres cubes d'eau qu'il faut injecter. Donc multiplié par 1000, ça fait 300 millions de litres d'eau. Donc c'est énorme, quoi. Alors cette eau, en général, elle est réingée, en théorie. Hein. On injecte l'eau, on la récupère, on la traite, etc. Mais évidemment, il y a des fuites. Évidemment, cette eau va être relarguée dans l'environnement. Et puis, j'essaie d'être court, en plus de cette eau, pour fracturer la roche, pour récupérer le gaz, il faut aussi injecter du sable. D'ailleurs, c'est dit dans le film, pour que, une fois qu'on a ouvert les fissures dans la roche, eh bien, le sable va permettre aux fractures de ne pas se refermer. Donc, c'est du sable, évidemment. Mais ce sable-là, pour qu'il circule bien dans les fractures, on injecte, le faux écologiste l'a dit, beaucoup de produits chimiques, lubrifiants, par exemple, pour que ça rentre bien dans la roche, etc. etc. Et puis des biocides, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bactéries qui vont venir grignoter, sinon, toutes les énergies, les sources d'énergie fossiles. Donc, on met plein de produits chimiques. Produits chimiques qui, à un moment donné, se retrouvent, évidemment, dans l'environnement, qui peuvent remonter à la surface, qui vont polluer aussi, bien sûr. Et puis, il y a aussi beaucoup de méthane, parce que c'est, le gaz de schiste, en fait, c'est du méthane, finalement, CH4, que vous connaissez, qui remonte. Et donc, il y a beaucoup de fuites de méthane. Et comme vous le savez, le méthane est un gaz à effet de serre qui est ultra puissant, puisque globalement, il est plus de 20 fois plus réchauffant que le CO2. Donc, c'est vraiment un gaz vraiment, vraiment très pénible pour l'environnement.
Je voudrais peut-être, alors ça c'est effectivement pour l'environnement c'est très mauvais, mais pour l'économie c'est très bon. En tout cas aux États-Unis, on a les mêmes problématiques qu'au Canada. Pourquoi ? Parce que de toute façon c'est de l'énergie fossile, donc c'est de l'énergie entre guillemets gratuite. Elle existe, elle est là, donc effectivement, mis à part les infrastructures pour extraire l'énergie, le gaz est là. Et les différents rapports, en tout cas pour les États-Unis, les ressources sont immenses en matière de gaz de schiste. Et je crois que c'est d'ici à 2050, les États-Unis seront le premier producteur de gaz grâce au gaz de schiste dans le monde. Donc les ressources sont là, les ressources sont abondantes. Et surtout, ce sont des mannes financières extrêmement importantes dans une économie globalisée dans laquelle on a besoin de plus en plus d'énergie. Donc effectivement, on a un constat écologique qui est extrêmement alarmant et alarmiste. D'ailleurs, les rapports du GIEC et tous les rapports environnementaux font état effectivement des problématiques environnementales d'extraction du gaz de schiste. Mais d'un point de vue économique, c'est une énergie très bon marché finalement. Donc on a quand même un différent irréconciliable entre l'économie et l'empreinte environnementale.
J'ai oublié de répondre à une partie de votre question, désolé, sur la France et l'Europe. Donc, en France, il y a des permis d'exploration du gaz de schiste. Donc on cherche le gaz de schiste. On l'a trouvé d'ailleurs dans le sud-est de la France. Par contre, on n'a pas le droit de l'exploiter. Il y a un moratoire en France. Et en Europe, dans mon souvenir, je crois qu'il y a deux pays où c'est interdit. Ça doit être la France et, dans mon souvenir, la Hongrie, qui ont refusé en fait, d'exploiter le gaz de schiste.
Et pour comprendre aussi... l'état de la ville rurale qui est mise en scène par Gus Van Sant et comprendre pourquoi certains habitants de cette ville accueillent Global comme les messies. Le film est tourné en 2012, est sorti en 2012, 4 ans après la grande crise financière de 2008, et qui est comparable presque à la grande dépression des années 30 aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a un plan dans le film qui fait vraiment référence à cette grande dépression des années 30, c'est quand Matt Damon a passé la journée à bosser dans la kermesse et qu'ils sont dans le camion avec les autres travailleurs. Et c'est vraiment une image qui pourrait être tirée de Steinbeck ou des raisins de la colère. Donc c'est vraiment
contextualisé dans la grande crise financière de 2008 et qui explique aussi l'état de, enfin, aussi le côté un peu charognard de cette grande entreprise qui se rue sur ces villes qui sont aux abois finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques?
Pour poursuivre juste un instant, on est confronté au fait que le monde a besoin d'énergie pour le moment, et on sait que c'est pas bon pour l'environnement. Donc il faut économiser l'énergie, certainement, mais on ne peut pas se passer pour le moment de l'énergie. Et donc, du coup, il y a toujours le pétrole, le gaz, le solaire, le vent, etc. Mais, et donc, les États-Unis ont trouvé la fortune avec le gaz de schiste. Nous, on est prudents, on attend en Europe. Mais économiquement, ils ont raison. Écologiquement, ils ont tort. Où est la vérité? Puisque le monde a besoin d'énergie.
Non, alors oui, mais c'est toujours ce que je disais, c'est un débat irréconciliable. C'est-à-dire que, alors, sauf à éduquer les populations à consommer moins et à consommer moins d'énergie, on est dans un système consumériste dans lequel, effectivement, on a toujours besoin de plus d'infrastructures, de plus d'électricité, de plus de déplacements. Et à partir de là, c'est la consommation d'énergie. Et bien évidemment, on a en tout cas en France, des investissements très importants en faveur des énergies renouvelables. Mais force est de constater que tous les moyens, en tout cas mis bout à bout, c'est quand même loin des capacités d'énergie des énergies fossiles. Le coût également des énergies renouvelables est bien supérieur, et je vous l'ai dit tout à l'heure, au coût des énergies fossiles. Donc tant qu'on a des énergies renouvelables dont le coût est largement supérieur au pétrole, au gaz, au charbon également, ça incite pas les populations à changer de comportement. Donc après, c'est une question d'éducation. Et en fait, ici, c'est symptomatique dans le fait que on est sensibilisé de plus en plus aux dérives, justement, des énergies fossiles. Donc peut-être faisons-nous plus attention parce qu'on est sensibilisé. Mais quand vous regardez donc, dans l'industrie pétrolière, et donc là, on peut en parler, hein, notamment de Total et des investissements en Ouganda, il faut se dire aussi qu'en Europe, on consomme énormément d'énergie. On est quand même dans des pays qui sont relativement privilégiés et développés. Quand vous allez en Ouganda faire des investissements, on vous propose des routes, des hôpitaux, des écoles pour les enfants. Je veux dire, effectivement, c'est très polluant. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux populations de ces États, de ces pays qui n'ont pas les mêmes facilités que nous, ce qu'on a ou ce que l'on connaît? C'est quand même très difficile d'aller dire « Ah ben non, n'allez pas polluer à l'autre bout du monde sur des populations qui sont extrêmement défavorisées, là où nous, on a des voitures, on a des infrastructures, on a des hôpitaux. » Donc c'est effectivement, à mon sens, extrêmement difficile, d'une part, de changer de comportement, et d'autre part, de se montrer moralisateur face à d'autres États ou d'autres populations, puisque ces gens, même si effectivement on a une conscience écologique ici qui se réveille en 2012, on a quand même une précarité importante entre l'Amérique profonde, dont on parle très peu finalement. C'est quand même, on met rarement ces gens en lumière, hein, avec peu de ressources, des difficultés, une grande précarité sociale. Donc on propose, et puis bon, la corde sensible, hein, on propose des prêts pour les enfants, pour aller au collège ou à l'université. Donc effectivement, quand on est parent et quand on est dans des situations sociales extrêmement difficiles, encore une fois, l'argent facile et l'argent abondant pour rêver d'un avenir meilleur, mais l'avenir meilleur, si c'est au détriment aussi de la population de la planète, voilà, c'est quoi le problème, c'est voir aussi à long terme. Donc il n'y a pas de bonne équation, malheureusement.
Juste comme tu le dis, il y a peu de films qui mettent en valeur justement cette Amérique profonde, le Midwest. Et Gus Van Sant, avec ce film, a vraiment voulu rendre hommage à cette population. Il faut savoir que tous les figurants, ou presque, hors les 4 ou 5 rôles principaux, sont des figurants des habitants des localités autour de la ville où ça a été tourné. Donc c'est des habitants locaux qui connaissent la région, qui sont de la région. Et donc Gus Van Sant a vraiment voulu garder cette authenticité. Ça se voit également dans sa mise en scène. Il y a de très nombreux plans très larges aériens justement qui cherchent à mettre en valeur ce paysage, ce territoire, cette terre promise avec un regard déjà assez nostalgique quand même sur l'état de cette, de ce rêve américain. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir ?
Non, je voulais juste réagir par rapport au propos qui consiste à dire on a besoin d'énergie. Ben, on peut quand même tous faire des petits efforts quand même. Enfin, je trouve qu'il y a, quand même un gaspillage énorme. On a eu l'habitude, nos générations, de grandir avec beaucoup de chauffage facile, avec de l'essence facile. Les États-Unis, c'est... D'après ce que j'en comprends, c'est encore pire. C'est-à-dire c'est extrêmement facile de mettre de l'essence dans sa voiture. Ça ne coûte rien. Le chauffage et l'énergie ne coûtent rien aux États-Unis. Donc, on a besoin d'énergie. Ben, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en question, je trouve.
Oui, c'est vrai qu'on vit dans une abondance d'énergie depuis très, très longtemps. On l'oublie, bien sûr, parce que le niveau de vie qu'on a aujourd'hui fait que si demain, on devait renoncer au niveau de vie qu'on a actuellement... même si on a envie de le dire comme ça, haut et fort, comme vous venez de le faire, si demain, peu de gens ont vraiment envie demain de renoncer à tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc on est dans une abondance d'énergie. Il faudrait, si on voulait à la fois concilier l'augmentation qui est en continuelle augmentation justement de notre niveau de vie énergétique et les problématiques de dérèglement climatique, il faudrait... qu'on diminue de plus de 3% par an les énergies fossiles, 5, très bien, voilà, donc ça fait plus que 3, et qu'on augmente quasiment, je crois, de 7% toutes les autres énergies, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment 80% d'énergies fossiles, et donc ça, c'est quelque chose qui touche à ce qu'on appelle la transition énergétique, et on peut montrer facilement que sans mettre dans l'équation à la fois les énergies renouvelables dont on a parlé, mais aussi l'énergie nucléaire, qui sont des énergies décarbonées, on pourra difficilement y arriver.
Alors, pour vous donner un exemple très très simple, pour aboutir au net carbone, voilà, pour qu'on ait la sauvegarde de la planète en matière climatique et qu'on arrête le réchauffement climatique, il faudrait que dès demain, on ait une nouvelle pandémie Covid-19 en termes de consommation d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Année 1, ça fait 5% des émissions. Et donc, l'année d'après, il faudrait de nouveau 5% supplémentaires. Et donc, 5% supplémentaires, c'est quoi ? Alors ça, c'est le chiffre project. Quand on regarde les rapports du chiffre project, c'est on arrête l'industrie combinée de la France, l'Espagne et l'Italie. Donc, et voilà, et ça progressivement pour aboutir à une net zéro carbone dans le monde. Donc en fait, il y a toujours un problème, c'est que si on fait ça, il y a un problème économique après derrière. Donc y a, encore une fois, il n'y a pas de bonne solution. Effectivement, il y a des bonnes intentions. Et je pense qu'effectivement, si tout le monde prend sa part alors, on ne va pas appeler ça de la décroissance, mais sur le fait de faire peut-être plus attention, effectivement, mais ça ne résoudra pas le problème que l'urgence, entre guillemets, climatique fait que 5% des émissions globales par an, ça correspond à une crise Covid. Donc c'est quand même immense et c'est quand même assez problématique, en tout cas, sur le fait de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on se déplace. Les usines sont à l'arrêt, les magasins sont à l'arrêt. Donc ça demande une planification immense derrière qu'on n'est pas, du tout à un quart de la planification sur ces questions. Donc c'est quand même très difficile d'envisager un avenir avec les besoins en termes climatiques qu'on a.
Merci. Alors, ma question portait plus sur le film, sur la réalisation du film, surtout sur le personnage qui est, selon moi, un peu trop fictif. Mais je me demandais si vous pensez que les entreprises émettent cette stratégie d'inventer une opposition écologique au sein d'une... par exemple, dans ce cas, c'est un vote. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment réel que les entreprises peuvent mettre en place ce type de stratégie, d'inventer... Est-ce que c'est trop recherché ? Est-ce que le réalisateur a inventé ce type de personnage ou est-ce que ça peut vraiment exister, ce type de méthode ?
J'en sais rien, à vrai dire, mais je suis à peu près persuadé que rien ne peut arrêter. Quand l'argent est dans l'équation, je pense qu'il y a rien ne peut être... voilà. Enfin, tout peut être envisagé. Donc, mais maintenant...
Après, il ne faut pas oublier quand même, on a le déséquilibre entre une multinationale qui pèse des milliards de dollars, notamment dans l'industrie énergétique, et les populations. Et je pense que finalement, malheureusement, tous les moyens sont permis. Remporter un appel d'offres en matière énergétique, ça demande effectivement beaucoup d'investissements, mais en tout cas, il y a même des participations des États qui soutiennent justement les industries pétrolières pour accroître la productivité. Et c'est aussi autant de recettes fiscales dans un État, il ne faut pas l'oublier. Donc quand on a un État qui dispose d'industrie pétrolière ou d'industrie énergétique, il y a du lobby étatique derrière. Il faut avoir aussi sa conscience. C'est que c'est aussi des recettes, c'est aussi de l'industrie, c'est de l'emploi qu'il y a derrière. Donc après, je pense que voilà, on ferme les yeux sur les méthodes. Ce qui compte, c'est le résultat, malheureusement, bien évidemment. Et donc ça passe encore une fois par de la sensibilisation, par de l'éducation, d'une part, et aussi de la transparence, d'autre part. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut que les gens soient éduqués. Parce que là, ce qu'on voyait au début du film, c'est qu'effectivement, on voit de prime abord le fait qu'on a des recettes, ou en tout cas la rémunération qu'on va retirer des baux qui sont conclus sur les terres. Mais les gens ne sont pas éduqués et ne sont pas sensibilisés à la cause climatique. Et autant nous, en France, on en parle énormément, autant il faut se dire, en Amérique, et surtout en Amérique profonde, ce n'est pas un sujet, la cause climat. Je veux dire, la cause environnementale, c'est même pas le début d'un débat. Ça ne rentre pas du tout en considération et ça ne rentre pas du tout dans la balance. Je veux dire... Dans les métropoles, effectivement, on commence à avoir aux États-Unis les causes du dérèglement, les grands feux en Californie. Donc peut-être qu'effectivement, à Los Angeles, on commence à se poser des questions, on repeint les routes, ce genre de choses. Mais dans le reste, vous allez au Nebraska, vous allez en Iowa, au Dakota, ce n'est pas du tout des sujets. Ça ne rentre même pas ni dans les campagnes, ni nulle part. Personne n'en parle. Donc effectivement, c'est une question d'éducation aussi. Et avec le mouvement climato-sceptique qui va derrière. Donc voilà, c'est une autre mentalité, les États-Unis. Donc vraiment, on ne peut pas du tout dupliquer ce qu'on voit là dans le film à ce que nous, on connaît en Europe, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes sujets, on n'est pas du tout sur la même éducation ou la même sensibilisation à la cause climatique.
Et le film est adapté d'un ouvrage aussi, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui a multiplié les recherches aussi sur le sujet. Et donc, je pense qu'il y a quand même une part de vrai sur le personnage du faux écolo. Et dans tous les films dossiers de ce genre, comme il n'y a pas longtemps Dark Water sur un scandale chimique aussi, ou plus ancien 99 révélations sur l'industrie du tabac, on voit dans tous ces films où quelqu'un va révéler le scandale, le pouvoir du lobby et quels sont les moyens qu'ils sont prêts à mettre en place pour conserver leur pouvoir. Et je pense que ça, c'est presque pas grand-chose par rapport à d'autres stratégies qu'ils peuvent mettre en place.
Quand on voit le film aussi, Erin Brockovich, par exemple, oui. Qui est un peu le pendant, c'est aussi, on voit toute la puissance de ces multinationales.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ?
Sur le film, bon, de style de fausse écologie, on n'imagine pas d'ailleurs... Au départ, enfin moi je tombe des nues à la fin du film là-dessus, mais il n'empêche que c'est Steve qui l'emporte. Finalement, ils vont voter non. Enfin, on pense que le village ne va pas basculer et donc il est viré. Donc vous voyez, alors je ne sais pas quel message veut faire passer l'auteur du livre ou l'auteur du film là, mais c'est vrai, du coup, le climat l'emporte sur l'économie.
Oui, sûrement pour avoir une happy ending américaine, donc où à la fin l'amour entre ces deux personnages, c'est le petit côté un petit peu rose du film et le climat. Donc on peut même imaginer que le Steve va s'installer dans le village, fonder une famille, éventuellement lutter contre les prochains globals qui viendront essayer d'installer leur. Enfin, on peut tout imaginer à l'américaine, quoi.
Je tiens quand même à signaler que Global va, enfin, il est dit quand même que Global va remporter le vote sous aux vendeurs de
guitare, armes et autres, lui dit, quand il lui dit « je suis désolé, j'ai pas pu voter », il lui répond « t'inquiète pas, ça devrait aller ». Donc Steve a une remise en question, c'est une remise en question personnelle, qui se voit d'ailleurs dès le tout premier plan du film. C'est le plan où on voit l'eau trouble et son visage, son reflet perturbé, qui se répète à la fin du film, qui montre toute la progression du personnage dans sa manière de penser. Et ça se voit d'ailleurs, on voit son discours qui devient de moins en moins fluide quand il va de maison en maison. Et quand il voit la personne venir avec sa voiture de luxe, là, il comprend les conséquences que peuvent avoir son action. Donc on a cette remise en question progressive, mais c'est une remise en question progressive individuelle. Et face au pouvoir de cette grande corporation, il ne va rien pouvoir faire. Donc moi, je vois quand même le message un peu pessimiste. L'auteur montre son attachement à ce paysage, à cette population, à ce Midwest, dans sa mise en scène. Il montre son attachement à son personnage, et Matt Damon est excellent dans ce rôle de mec lambda qui n'arrête pas de répéter « je ne veux pas être un salaud, je ne veux pas être un salaud ». En fait, on voit que c'est ça, c'est une obsession, et qu'au début, il ne remet absolument pas en question la politique de son entreprise. Juste qu'il est convaincu, sans questionner, mais c'est ce questionnement progressif qui importe le réalisateur plus que peut-être le message global de la fin.
Et puis, alors pour compléter le propos, je ne connais pas un dossier ou un cas dans lequel il y a eu des résistances, où il y a eu des résistances, mais un cas dans lequel l'industrie, en tout cas pétrochimique, ne l'a pas emporté. Et pour vous donner un exemple extrêmement symptomatique, vous pourrez aller regarder l'affaire, c'est l'affaire du pipeline. C'est un pipeline aux États-Unis qui traversait le Dakota pour aller jusqu'au Michigan, je crois qu'il fait plus de 2000 km. Qui transportait du gaz, et il y a eu une résistance des peuples Sioux d'Amérique compte tenu des dommages irréversibles liés aux fuites du pipeline sur l'eau, sur les terres, sur l'environnement. Et dans le dernier état, donc effectivement, la Cour fédérale des États-Unis du Dakota a demandé des compléments d'investigation sur ce pipeline, mais il n'a pas été interdit d'exploitation. Donc il transporte en ce moment ce qui correspond à peu près à 570 millions, je crois, de barils de pétrole et qui continue d'être exploité. Donc la décision d'État fédéral, je crois qu'elle date de 2020. Donc, il continue d'exploiter, et les prévisions, en tout cas, de la remise des rapports sur les dommages environnementaux du pipeline sont prévues pour fin 2024. Mais à l'heure actuelle, le juge fédéral a demandé un complément d'investigation, mais sans effet suspensif. Donc, c'est-à-dire que la compagnie pétrolière continue d'exploiter le pipeline avec toutes les difficultés que l'on connaît en termes de dégradation de l'environnement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour continuer la discussion ? Eh bien, j'espère. En tout cas, je vous remercie d'être venu ce soir. Je vous remercie pour vos discussions. J'espère que vous avez apprécié la séance. Bonne fin de soirée à tout le monde.